que j'ai fait en Inde, dans la région de Calcutta. Alors, dans les villages, c'est toujours pareil, plusieurs huttes, et voilà une sorte de swimming pool. Alors, la première fois où j'étais là, en Inde, j'ai demandé, mais à quoi sert ce swimming pool? Alors, on m'a expliqué pour tout. Pour nager, pour laver les vaisselles, pour... Oui, pour tout, on met tout. Alors, vous comprenez pourquoi il y a tant de morts tout le temps. C'est terrible. Il y a tant de gourous illuminés. Ils n'ont jamais eu une vision pour savoir comment il faut faire. Mais c'est quand même drôle. Des choses vraiment de la vie journalière, terre à terre, n'est-ce pas? Point 29. Bactéries et morts. Nombre 19, verset 11. Moïse écrit, « Celui qui aura touché un mort, un cadavre d'homme quelconque, sera impur 7 jours. Et quiconque touchera dans les champs un homme qui aura été tué par l'épée, ou un mort, ou un ossement d'homme, ou un sépulcre, sera impur 7 jours. » Le docteur Ignaz Semmelweis, 1818 à 1865, réclama comme premier médecin en Europe qu'on se lave les mains avant l'accouchement afin de réduire le nombre de morts à cause de la fièvre puerpérale, parce que là, à l'époque, il y avait en Autriche 33% de mortalité après les accouchements dans les hôpitaux. C'est catastrophique. Et alors il a dit, je veux que mes étudiants lavent les mains d'abord. Parce que c'était normal. On a fait de la recherche scientifique avec des morts dans une salle. Et voilà, une femme arrive avec pour l'accouchement. Alors on sort et puis on fait le travail et puis on retourne à la salle pour faire de la recherche. D'ailleurs, la mortalité en général était beaucoup plus haute dans des hôpitaux d'université. Et la recherche était poussée. Tiens, et Semmelweis s'est dit, il faut laver les mains. Où est-ce qu'il savait ça? C'était un juif, Semmelweis. C'est un non-juif. Et puis, alors, il faut seulement lire l'Ancien Testament pour savoir. On est impur lorsqu'on touche un mort. On s'est moqué de lui. Donc les autres docteurs se moquaient de lui. Mais c'est un fou. On l'a marginalisé. Et il a changé de clinique, mais ça a continué. Il n'était jamais accepté. Et finalement, ce pauvre docteur Semmelweis a fini dans une clinique psychiatrique. Ça l'a vraiment détruit. Et ce n'est qu'avec le docteur Joseph Lister, 1827-1912, qu'on introduira avec succès les antiseptiques en médecine. Oui, c'est assez récent. Mais dans la Bible, c'était clair depuis longtemps. Et vous voyez, les scientifiques se moquait de lui, parce qu'il suivait en quelque sorte la Bible. 30. Hygiène par le bain. Voyez, en nombre 19, il est écrit, lorsqu'on a touché des morts, il fallait faire ceci. Et il lavera ses vêtements, et il se lavera dans l'eau, et le soir, il sera pur. Vous voyez ici, donc des bains rituels, on a trouvé des dizaines à Jérusalem, vers la place du temple à Jérusalem, parce que tout le monde qui venait au temple à Jérusalem devait, il y a 2000 ans, toujours se purifier d'abord dans ces bains rituels. Et voilà, c'était tout normal pour chaque juif de pratiquer cela. D'ailleurs, aussi après la destruction du temple, parce que les juifs ont été dispersés dans le monde entier, aussi en Europe, ils ont continué avec les bains rituels. Lorsque les Européens non-juifs, ils ne savaient rien de cette hygiène. Par le bain, laver. Vous voyez, les livres de Moïse parlent toujours de ces bains rituels, comme par exemple Lévitique 15, verset 16. Et lorsque la semence sort d'un homme, il lavera dans l'eau toute sa chair. Et il sera impur jusqu'au soir. Et tout vêtement ou toute peau sur lesquels il y aura de la semence sera lavé dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Donc pas seulement quand on a touché un homme, il y avait aussi d'autres raisons hygiéniques où il fallait se laver pour ne pas donner aux pathogènes une possibilité pour se développer. hygiène par le bain. Je finis avec 31. Isolement. Lévitique 13, 45. Et le lépreux, en qui sera la plaie, aura ses vêtements déchirés. Et sa tête découverte, et il se couvrira la barbe, et il criera « Impur, impur !» Tout le temps que la plaie sera en lui, il sera impur. Il est impur. Il habitera seul, son habitation sera hors du camp. Un commandement très dur, n'est-ce pas? L'isolement des lépreux. Mais au Moyen-Âge, on aurait pu sauver la vie de plusieurs millions de personnes par la pratique de l'isolement à cause de la lèpre et de la peste. Et il fallait longtemps jusqu'à ce qu'on a compris en Europe, il faut faire l'isolement pour ces maladies-là. Et voyez, les Juifs, par exemple à l'époque 1348, c'était la période de la peste en Europe. Un tiers de la population est mort, à peu près 24 millions. Et voilà, on a tout de suite trouvé la raison de cette maladie, de cette peste, de cette épidémie. Les Juifs. Parce qu'on a réalisé, parmi les Juifs, il y a si peu de malades, seulement parmi les non-Juifs. Ah ah, c'était les Juifs qui ont mis quelque chose dans les puits. Et voilà, ils ont apporté cette maladie. Alors, on a fait une persécution parmi les Juifs. 1 million de morts en Europe, au 14e siècle. Terrible, n'est-ce pas? Mais il y avait si peu parce que les Juifs pratiquaient l'hygiène de la Torah, de la Bible. Alors, quand on voit cela, on est quand même stupéfait, il me semble, de la sagesse de la Bible. Et voilà, Moïse était conscient de cette sagesse, pas parce qu'il a été tellement érudit, il a fait les écoles en Égypte, n'est-ce pas? Mais il écrit en Deutéronome 4, verset 5, avant de mourir, dans ses derniers discours, à la fin des 40 ans de voyage par le désert, « Regarde, je vous ai enseigné les statuts et les ordonnances comme l'Éternel, mon Dieu, me l'a commandé. » Afin que vous fassiez ainsi au milieu du pays où vous allez entrer pour le posséder. Et vous les garderez et les pratiquerez, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront tous ces statuts, par exemple à Lyon, et diront quel peuple sage et intelligent que cette grande nation. Ce n'est pas parce qu'ils ont un meilleur cerveau, mais parce qu'ils avaient la Bible. Et Moïse était conscient que c'était l'Éternel, son Dieu, qui avait commandé. Ce n'est pas son invention. Vous voyez, le contraste entre la sagesse de l'Égypte et la sagesse de la Bible. Enfin, en acte 7, verset 21-22, par le papyrus Héber, qui est un très grand papyrus de médecine égyptienne, qui date de 1550 avant Jésus-Christ. Donc, à peu près de l'époque de Moïse. Et là, vous pouvez, par exemple, lire, pour éviter des cheveux gris, il y a plusieurs qui sont intéressés maintenant, de savoir, mettre sur les cheveux du sang, cuit dans l'huile, et, c'est-à-dire, du sang d'un veau noir, c'est logique, n'est-ce pas? Ou mettre de la graisse d'un serpent sur les cheveux. Mais on trouve là aussi des médicaments comme sang de lézard, oreille de cochon, matière fécale d'âne qu'on met sur la blessure, n'est-ce pas? Ça fait du bien, ça porte typhus et autres. Matière fécale d'âne, d'homme et de chat. Alors, ça c'était la science moderne à l'époque. Et n'est-ce pas, nous sommes tous impressionné de ce qui est moderne en notre époque. Mais la science était, au 19e siècle, là, la science était aussi moderne. Au 18e siècle, elle était aussi moderne. Mais aujourd'hui, c'est assez rigolo, n'est-ce pas, de voir ce qui était moderne au 19e siècle, etc. Bien sûr, puisque la science est humaine, elle se développe, c'est tout normal. Il n'y a rien à reprocher en ceci. Mais, vous voyez, Moïse n'était pas influencé par la connaissance de son époque. Il a écouté la voix de Dieu. Il a suivi sans comprendre à l'époque. Il a bien fait. Il y a aujourd'hui aussi des passages que vous peut-être ne pouvez pas comprendre pourquoi la Bible dit ainsi. Mais si vous connaissez ce Dieu qui a inspiré la Bible, vous pouvez savoir que ses pensées sont plus hauts que nos pensées, ses chemins que nos chemins. Alors, je reviens donc à ce que la Bible dit d'elle-même. La Bible s'appelle la révélation de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu. Et au psaume 19, verset 7, nous lisons « La loi de l'Éternel, la Torah de l'Éternel, est parfaite. Restaurons l'âme. Les témoignages de l'Éternel sont sûrs. Rendons sages les sots. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, réjouissant le cœur. Le commandement de l'Éternel est pur, illuminant les yeux. » Vous voyez, la Bible dit « Le peuple d'Israël est le peuple choisi de Dieu pour cette terre. » Mais la Bible nous explique au Nouveau Testament que dans cette période où les Juifs ont été dispersés dans le monde entier, après le rejet du Messie, le message de la bonne nouvelle de la Bible devait être apporté dans le monde entier, ce qui s'est passé. Et la Bible nous explique que Dieu est en train de rassembler un peuple céleste, composé de chaque personne, juif ou non juif, chinois ou indien, suisse, français. Dieu rassemble un peuple céleste. Vous voyez, Israël comme peuple choisi, peuple terrestre choisi, a donc reçu beaucoup d'ordonnances qui sont en rapport avec la vie terrestre, pour rendre la vie heureuse sur la terre. Et voyez, les commandements, ils jouent vraiment pour la vie sur la terre. Mais en rapport avec le peuple céleste aujourd'hui, Dieu donne donc les commandements pour savoir comment nous pouvons obtenir pas seulement une longue vie sur la terre, mais une vie éternelle avec Dieu. Et voilà, en Jean 3, 16, la parole de Dieu dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Alors vous dites, mais je ne peux pas comprendre. Pourquoi Dieu doit envoyer son Fils? Il doit mourir pour mes péchés à une croix infâme. Dieu doit le juger à la croix, et par cela, je peux obtenir le pardon. Je ne comprends pas. Mais Dieu a montré ce chemin pour obtenir la vie éternelle. Et si vous ne pouvez pas comprendre la raison profonde, vous allez comprendre plus tard, comme les Juifs ont compris beaucoup plus tard ce que Dieu leur a enseigné pour avoir une longue vie sur la terre. Donc il faut croire, recevoir le message de Dieu pour recevoir la vie éternelle, même si on ne comprend pas vraiment. Mais ce n'est pas un saut dans les ténèbres, puisque par tout ce que nous avons vu déjà hier, aujourd'hui, on voit que derrière la Bible, il y a ce Dieu éternel dans lequel on peut vraiment se confier. On peut se confier. Et puisque ce Dieu de la Bible est fiable, on peut aussi croire que sur ce chemin, en croyant en son Fils Jésus-Christ, on peut obtenir la vie éternelle. Si sincèrement on apporte les péchés de sa vie, desquels on est encore conscient, et on regrette, et on apporte ses péchés à Dieu, et on reçoit le pardon, la vie éternelle. Ça vaut la peine. Dieu est fiable, sa parole est fiable.